Ça y est, il est minuit à Sydney. Nous sommes déjà là-bas le 1er janvier 2025 pour l'heure 8h à Washington et Port-au-Prince, 13h temps universel.
RFI Midi. Charlotte Idrac.
Il a marqué l'année 2024. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, devenu un acteur clé de la politique aux États-Unis, mais pas seulement, et qui ne quitte pas Donald Trump d'une semelle. On y reviendra. Le président du Nicaragua dans le viseur de la justice argentine, Daniel Ortega, accusé de violation systématique des droits de l'homme. On ira aussi en Haïti pour une dégustation de cassave, cette galette croustillante à base de farine de manioc inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et puis comme chaque jour, l'actualité aux Caraïbes avec nos confrères d'Outre-mer. Première avec vous, aujourd'hui Benoît Ferrand, à la une de la Martinique.
La Martinique est le leader du RPRAC, Rodrigue Petitot, qui restera en détention provisoire jusqu'au 21 janvier prochain. Ainsi en a décidé hier le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Benoît Ferrand, à tout à l'heure, tout de suite le journal. Avec vous, Guillaume Ouattara, et ça y est, comme à Sydney, en Nouvelle-Calédonie, c'est déjà 2025.
Oui, les célébrations de la nouvelle année qui ont débuté dans de nombreux pays. On vous fera vivre évidemment le passage à la nouvelle année tout au long de la journée sur l'antenne de RFI. Mais il faut dire que tout le monde n'a pas le cœur à la fête aujourd'hui en Belgique. Ce sont deux décisions qui font polémique. Deux communes qui ont décidé d'imposer un couvre-feu à une partie de leur jeunesse ce soir. En prévision de cette nuit de la Saint-Sylvestre, des mesures justifiées par les autorités communales pour éviter les débordements. Bonjour Eléona Loison.
Bonjour.
Correspondante de RFI en Belgique. Alors face à ces décisions, habitants et associations de défense des droits humains sont vent debout.
Oui, le Conseil d'État belge a du travail en ces dernières heures de 2024, saisi par des parents pour juger de la légalité de ces deux décisions. L'une dans le Nord, en Flandre, où une cinquantaine de jeunes sont assignés à résidence à Anvers à partir de 17h de manière préventive sur décision de la mairie. L'autre à Bruxelles, où ce sont l'ensemble des jeunes de moins de 16 ans du quartier populaire de Kureghem à Anderlecht qui ont l'interdiction de sortir à partir de 19h sans être accompagnés par un parent. Ces deux mesures choquent dans le pays. Certains dénoncent des décisions discriminatoires envers les quartiers populaires. Le bourgmestre d'Anderlecht se défend. Il parle d'une atmosphère de guérilla dans le quartier les années précédentes et dit vouloir protéger les jeunes qui seraient tentés d'utiliser des pétards et feux d'artifice. Hier soir, le Conseil d'État belge a jugé sa mesure illégale et contraire à la Convention relative aux droits de l'enfant, mais non préjudiciable pour les jeunes et n'a donc pas interdit ce couvre-feu. Pour Anvers, la décision est attendue dans l'après-midi.
Merci beaucoup Eléona Loison en direct depuis Bruxelles pour RFI. Notez que d'autres villes françaises cette fois ont elles aussi décidé d'instaurer un couvre-feu ce soir. C'est le cas à Compiègne dans l'Oise ou dans plusieurs communes de l'agglomération de Bordeaux.
Mayotte n'a pas vocation à devenir une île bidonville.
Les déclarations du Premier ministre François Bayrou depuis l'île de la Réunion, là où il a conclu sa visite express de l'archipel ravagé par le cyclone Chido. Le Premier ministre qui a souligné l'importance de dire non aux reconstructions précaires tout en promettant des solutions d'hébergement adaptées. Des déclarations qui s'inscrivent dans son plan Mayotte debout et les mesures annoncées comme le rétablissement de l'électricité d'ici fin janvier et la loi d'urgence présentée au Conseil des ministres ce vendredi. Notez que les vols commerciaux reprendront dès mercredi sur l'archipel.
En France, toujours le budget 2024 reconduit pour l'année 2025.
Et ce, conformément à une loi spéciale adoptée mi-décembre après l'échec de l'adoption d'un projet de loi des finances. Un décret publié au journal officiel permet de poursuivre les dépenses publiques à hauteur de 492,9 milliards d'euros sur la base des crédits votés pour 2024.
Le Trésor américain, victime d'une cyberattaque début décembre, accuse la Chine.
Un piratage sans grande conséquence, il faut le dire, mais qui démontre, selon les autorités américaines, la faiblesse de la sécurité informatique au sein des institutions fédérales. Pékin riposte et dément. Les explications avec vous, Carlotta Morteo.
Oui, des accusations infondées, calomnieuses, sans aucune preuve pour les étayer. Voilà ce que répond le ministère des Affaires étrangères chinois, qui s'indigne que les États-Unis diffusent, je cite, de fausses informations à l'égard de la Chine et à des fins politiques. Tout est parti d'un courrier du département du Trésor américain envoyé aux élus de la Chambre des représentants, où il les informe qu'une cyberattaque a eu lieu début décembre. Des hackers auraient réussi via un logiciel logiciel tierce a accédé aux ordinateurs de plusieurs employés de cette importante agence chargée d'élaborer et d'appliquer les politiques économiques et fiscales des États-Unis, dont les sanctions internationales. Le Trésor estime que les pirates informatiques n'ont pas mis la main sur les documents classifiés, les documents les plus sensibles, mais que cette attaque aurait été menée par un acteur soutenu financièrement par la Chine, ce sont les termes exacts de l'accusation, et qu'elle représente donc à ce titre une faille importante de la sécurité des États-Unis, traitée comme une tentative d'espionnage. Ce n'est pas la première fois que Washington accuse Pékin. Plusieurs failles informatiques embarrassantes ont été médiatisées cette année aux États-Unis et imputées déjà à la Chine.
Merci beaucoup Carlotta Morteo, en direct pour RFI, pour toutes ces explications.
À Trinité-Tobago, dans les Caraïbes, les autorités déclarent l'état d'urgence.
En cause, une augmentation incontrôlée de la violence des gangs. Plusieurs personnes sont mortes, assassinées. Suzanne Marion.
Une décision motivée par des chiffres. Il y a eu cette année 623 homicides, soit près de 70 de plus que l'an dernier. Et voici comment le ministre de la Sécurité intérieure, Phil Gerald-Hinds, décrit la situation.
Pour moi, il n'y a aucun doute que nous sommes confrontés à une épidémie. Et c'est la raison pour laquelle nous traitons cette question comme un problème de santé publique.
Des homicides liés notamment au règlement de compte entre membres des gangs sur fond de trafic de drogue. Pour y faire face, l'état d'urgence donne davantage de moyens à la police. Elle peut par exemple mener des perquisitions sans mandat judiciaire et prolonger les détentions jusqu'à 48 heures. Pour autant, la population peut continuer à se déplacer librement afin de ne pas entraver l'activité économique, comme le justifie le procureur général Stuart Young.
À ce stade, le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait pas de couvre-feu. Cette décision s'explique par le fait que l'état d'urgence national vise les personnes qui se livrent à des activités criminelles avec des intentions criminelles.
Ce n'est pas la première fois que les autorités trinidadiennes musclent la répression face aux gangs. En 2011, déjà, un état d'urgence avait été instauré sans que la violence ne soit réduite sur le long terme.
Explication signée Suzanne Marion pour RFI.
L'année écoulée devrait être la plus chaude jamais enregistrée.
Alors que les émissions de gaz à effet de serre dues à l'activité humaine ont atteint de nouveaux records, le réchauffement de la planète qui en résulte a déclenché en 2024 des conditions météorologiques extrêmes, parmi elles les cyclones. Le nombre de ces immenses tempêtes est resté relativement stable au cours des 40 dernières années, mais leur puissance dévastatrice augmente, Stéphanie Scheller.
Depuis 1980, on observe en moyenne chaque année 47 cyclones tropicaux. En 2024, 42 de ces perturbations tourbillonnaires ont été recensées dans le monde. 19 d'entre elles ont touché terre. Le plus puissant cette année, c'était l'ouragan Milton, qui a dévasté la côte américaine en octobre. Au plus fort de la tempête, les vents ont atteint 278 km/h, ce qui correspond à la catégorie 5, la plus haute sur l'échelle de référence Saffir-Simpson. La force de Milton correspond aux projections du GIEC. Ce groupe d'experts climatiques de l'ONU prédit une augmentation du nombre de cyclones violents en raison du changement climatique, car les océans absorbent plus de 90% de la chaleur ajoutée. Or, des eaux plus chaudes servent de carburant aux cyclones. Et en effet, ces 10 dernières années, le nombre de tempêtes dont les vents ont dépassé les 250 km/h a augmenté de 40%. Selon une étude préliminaire britannique, le cyclone Chido, qui a ravagé Mayotte, est ainsi passé de la catégorie 3 à la 4 à cause du réchauffement climatique.
Et ces explications signées Stéphanie Scheller pour RFI.
À tout à l'heure, Guillaume Ouattara. Pour le moment, RFI Midi, dernière partie sur le continent américain et en Haïti, à Washington, presque 8h09 du matin. Il est partout de tous les débats, le budget, les visas pour les travailleurs qualifiés, les élections en Allemagne même, ou la politique britannique. C'est Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, le milliardaire devenu en cette année 2024 l'une des voix qui compte le plus aux États-Unis. La presse américaine, Christophe Paget, s'interroge sur ce rôle aux côtés du président élu Donald Trump.
Oui, aux côtés même physiquement, explique le New York Times, puisque Elon Musk est devenu le locataire de Donald Trump. Il loue un des chalets à $2000 la nuit de sa propriété de Mar-a-Lago. situé à une centaine de mètres du bâtiment principal, ce qui lui permet, explique Le Quotidien, d'avoir un accès facile au président élu, par exemple pour apparaître pendant ses dîners. Il l'a fait lorsque Donald Trump recevait le patron d'Amazon, Jeff Bezos, mais aussi pour participer à des réunions, être présent lors de coups de fil à des dirigeants étrangers et plus largement passer des heures dans le bureau de Donald Trump. Et il n'est pas tout seul. Hein. Plusieurs employés de ces diverses entreprises sont aussi partie prenante dans la transition de Joe Biden à Donald Trump, puisqu'il participe aux entretiens de recrutement pour la nouvelle administration.
Elon Musk, plus que jamais impliqué dans la politique américaine, donc, mais pas seulement. Hein, Lubna Anaki, on vous retrouve correspondante à New York. Après avoir secoué la politique américaine cette année, Elon Musk pourrait bien faire la même chose ailleurs.
Oui, le multimilliardaire n'hésite pas à donner son avis sur d'autres gouvernements, d'autres États. Ces derniers mois, il s'est invité par exemple dans le débat politique en Grande-Bretagne, disant être prêt à faire un don de 100 millions de dollars au parti populiste de Nigel Farage. Il a aussi apporté son soutien au parti d'extrême droite allemand AfD et critiqué l'actuel chancelier Olaf Scholz. Hier, le gouvernement allemand a accusé Elon Musk d'essayer d'influencer les élections prévues en février.
Et Lubna Anaki, que ce soit sur le plan international ou local, cette influence, elle ne plaît pas forcément hein, dans le camp Trump.
Oui, on l'a vu il y a deux semaines quand Elon Musk a fait capoter l'accord autour du budget, précipitant le Congrès dans le chaos et à la limite du shutdown. On l'a vu aussi ces derniers jours, il s'est mis à dos les Trumpistes les plus conservateurs en défendant le programme de visa destiné aux travailleurs qualifiés. Un programme que Donald Trump avait largement limité lors de son premier mandat, mais semble désormais défendre. Cette fois, beaucoup voient là l'effet d'Elon Musk sur le président et certains alliés proches n'ont pas hésité à faire savoir qu'ils ne voyaient pas du tout cette situation d'un bon œil. 200 millions d'abonnés sur X et 450 milliards de dollars à la banque. Jamais un homme aussi puissant qu'Elon Musk n'avait eu autant d'influence auprès d'un président américain et dans le monde.
Et on verra donc ce que ça donne pour 2025. Merci à vous, Lubna Anaki, notre correspondante à New York.
RFI, la radio del mundo.
C'est depuis l'Argentine qu'un juge a ordonné l'arrestation du président du Nicaragua. On y revient avec vous. On vous retrouve, Christophe Paget, pour la suite de votre revue de presse. Un ordre donc d'arrestation du président du Nicaragua et de son épouse.
Oui, pour violation systématique des droits humains, rapporte le quotidien argentin El Día. Selon le principe de juridiction universelle qui permet aux différents pays de traiter de crimes contre l'humanité indépendamment du lieu où ils ont été commis. Le président nicaraguayen, la vice-présidente et une dizaine de personnes sont accusées, la liste est longue, hein, d'assassinat, de privation de liberté, disparition forcée, torture, déportation, déplacement forcé de population et persécution d'un groupe ou d'une collectivité. Un peu de lumière parmi tant d'obscurité, s'est félicité sur X l'avocat Dalio Richarte, repris par le quotidien nicaraguayen Confidencial. Dalio Richarte, professeur en droit pénal international et droits humains à l'Université de Buenos Aires, qui avait lancé en 2022 l'enquête à la demande d'un groupe de ses étudiants. La presse nicaraguayenne se félicite. Les preuves contre Ortega et ses hommes de main ne disparaîtront pas grâce au procès argentin, écrit la Prensa, car elle jette les bases de futurs procès devant des tribunaux internationaux ou au Nicaragua, une fois la démocratie rétablie.
Et ce mandat d'arrêt contre Daniel Ortega a été largement salué.
Oui, par d'anciens diplomates argentins, des opposants et des défenseurs des droits de l'homme nicaraguayens, rapporte 100% Noticias. L'opposant Juan Sebastián Chamorro considère ainsi que cette décision pourrait avoir plus d'impact que les sanctions internationales. Un avocat nicaraguayen explique ainsi que même si le Nicaragua ne se conformera probablement pas à l'ordonnance, Daniel Ortega courra de plus grands risques lorsqu'il voyagera. Si son avion a des problèmes et atterrit dans des pays comme le Guatemala ou le Panama, l'Argentine pourrait coordonner l'arrestation et l'extradition de l'accusé pour le traduire en justice.
L'Argentine, qui serait par ailleurs devenue un refuge pour des Brésiliens partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro et qui avaient participé à la tentative de coup d'État donc au Brésil en janvier 2023, l'assaut contre les sièges du pouvoir à Brasilia. Bonjour Théo Conscience.
Bonjour, bonjour à tous.
On vous retrouve à Buenos Aires. Depuis l'élection du président argentin Javier Milei, donc des centaines de Brésiliens qui ont participé à ces émeutes, ces assauts, ont traversé la frontière, c'est ça, pour échapper à la justice de leur pays.
Alors ils sont au moins 140 selon la justice brésilienne et jusqu'à 600 selon les collectifs qui défendent leurs intérêts. Ils ont en commun d'avoir participé aux émeutes du 8 janvier 2023 à Brasilia. Ce jour-là, des partisans de Jair Bolsonaro qui contestaient la victoire de Lula à l'élection présidentielle avaient envahi et vandalisé le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel. Poursuivis et dans certains cas condamnés par la justice brésilienne pour avoir participé à une tentative de coup d'État, ils ont fui vers l'Argentine après l'arrivée au pouvoir de Javier Milei en décembre 2023. Dans un message diffusé lors d'une conférence de la CIPAC, grande messe conservatrice qui a eu lieu à Buenos Aires début décembre, Jair Bolsonaro a remercié le président argentin pour avoir accueilli ses partisans dans son pays.
Il y a beaucoup de réfugiés en Argentine et je remercie Javier Milei du fond du cœur pour avoir accueilli dans son pays ses personnes, ses pères et mères de famille. Leur douleur est très grande, cette générosité et cet accueil envers ces personnes persécutées politiquement, ces réfugiés. Nous, les honnêtes brésiliens, nous ne l'oublierons pas. Continuez comme cela, vous pouvez compter sur notre soutien.
Et quelle est la situation juridique de ces personnes, Théo ?
Pour l'instant, elle est incertaine. Mi-novembre, la justice argentine a émis des mandats d'arrêt contre 61 ressortissants brésiliens qui font l'objet de demandes d'extradition de la part de la justice brésilienne. Tous ont reçu des condamnations définitives à des peines de prison ferme et 4 d'entre eux ont d'ores et déjà été appréhendés par les autorités argentines. Cependant, leur sort n'est pas fixé car la plupart de ces fugitifs ont demandé l'asile politique en Argentine. Selon Claudio Luis Caivano, l'avocat brésilien de plusieurs d'entre eux, ses clients ont participé à une manifestation, pas à une tentative de coup d'État, et sont donc injustement poursuivis.
C'est de la persécution politique. Il est clair que le tribunal suprême de notre pays s'est converti en un tribunal populaire qui ne fait que juger et poursuivre des opposants politiques.
Alors, fugitifs, réfugiés politiques, est-ce que ces partisans de Bolsonaro devront rendre des comptes à la justice de leur pays ?
Eh bien, ils ont bon espoir d'y échapper grâce aux affinités entre Javier Milei et Jair Bolsonaro. Si ces mandats d'arrêt et les arrestations qui ont eu lieu dépendent de la justice, l'extradition en elle-même est une décision politique. Le gouvernement argentin pourra décider de l'accepter ou d'attribuer le statut de réfugié aux personnes concernées. Fin octobre, un décret présidentiel a restreint les conditions d'asile en Argentine, mais Claudio Luis Caivano affirme que ses clients et les autres Brésiliens recherchés par la justice ne sont pas concernés. L'avocat, qui s'est réuni début décembre à Buenos Aires avec des députés du parti de Javier Milei, se dit confiant.
Aucun d'entre eux ne sera extradé car le dernier mot revient au pouvoir exécutif, c'est-à-dire à Javier Milei. Et il me semble que lui et son gouvernement ont compris qu'au Brésil, il n'y a actuellement pas de démocratie ni d'état de droit. Donc faisons confiance à Javier Milei pour qu'une solution soit trouvée rapidement.
Théo Conscience, correspondant de RFI en Argentine, merci à vous. Bonne journée à Buenos Aires, bonne année. Dans l'actualité latino-américaine, encore la suite de votre revue de presse, Christophe Paget, le canal du Panama fête aujourd'hui ses 25 années de gestion panaméenne.
Oui, en 1999, il y a donc 25 ans, les États-Unis transféraient leur gestion du canal à Panama. Un transfert dont on parle beaucoup ces derniers temps, déjà parce que le président américain Jimmy Carter, décédé ce dimanche, avait signé en 1977 les traités permettant ce transfert. Et puis parce que le président élu Donald Trump a récemment menacé de reprendre le contrôle du canal si les prix des péages pour les navires américains n'étaient pas réduits. Dan The Hill, l'ancien ambassadeur américain au Panama, John Filley, estime que reprendre le canal est impossible à moins de déclencher une guerre. Et sur le site de la chaîne ABC, le président de la Commission des Relations Extérieures du Sénat estime que la menace agitée par Donald Trump pourrait jeter les alliés des États-Unis dans les bras de la Russie et de la Chine. Côté panaméen, la Estrella de Panama titre sur un canal qui, en 2024, a rapporté plus qu'en 87 années de contrôle par les États-Unis. Un canal qui, rappelle-t-elle, fournit également de l'eau potable à plus de 50% de la population du pays grâce à la station d'épuration de Mendoza. Un canal dans lequel la Prensa Panama voit aussi un patrimoine de l'humanité revenant sur la nationalité de tous ceux qui ont travaillé à sa construction. Français, espagnol, chinois, antillais et américains, entre autres.
Les 25 ans donc de gestion panaméenne du canal de Panama. On termine votre revue de presse avec un mollusque.
Tout à fait.
Qui pourrait aider, une fois n'est pas coutume, qui pourrait aider les scientifiques à comprendre le fonctionnement des courants dans l'océan Atlantique.
Comment oui, ça ? Alors ce mollusque est le plus vieil animal jamais trouvé. Il a quand même 507 ans. Et, raconte le Washington Post, il était destiné à devenir autre chose qu'une simple soupe. grâce à sa coquille, il a enregistré les modifications de l'eau dans laquelle il baignait au large de l'Islande, plus ou moins chaude, plus ou moins salée au cours des siècles. Et cette coquille doit aider les scientifiques à prédire si le réchauffement causé par l'homme a poussé le système de circulation des mers dans l'Atlantique, un système très sensible et aussi vital pour la planète que la circulation sanguine pour le corps humain, vers un point de bascule qui pourrait, selon les spécialistes, dévaster le monde moderne et qui pourrait avoir lieu plus tôt que prévu, peut-être en 2050. Le mollusque qui doit aider à vérifier tout ça a été baptisé Hafrun, un mot islandais signifiant « mystère de l'océan ».
Retenez bien ce nom Hafrun et vous reviendrez nous en parler, Christophe Paget, sur l'examen de ce mollusque. Merci à vous.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Merci de nous écouter là-bas à Port-au-Prince où il est 8h20 dans une année plus que difficile pour Haïti. Cela a été une raison de se réjouir. La cassave, cette galette croquante à base de farine de manioc, a été inscrite tout récemment sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. On la retrouve, cette cassave, sur les tables haïtiennes et dans plusieurs pays latino-américains. Elle a traversé les siècles. Reportage dans la région du Grand Nord. En Haïti, Ronel Paul et Love Mark Andy Paul.
Dans cet atelier de production de cassave situé à quelques kilomètres de la ville du Cap-Haïtien, au nord du pays, assise devant un tas de manioc, cette ouvrière épluche les racines une par une à l'aide d'un petit morceau de canette de soda. Un rôle souvent réservé aux femmes.
Une fois qu'on a fini d'enlever les peaux, les maniocs seront mis dans un bassin pour être lavés.
À ce stade, ce sont les hommes qui prendront le relais. Kenold Cadet est l'un des artisans de l'atelier.
Une fois lavé et bien nettoyé dans une grosse bassine, le manioc est râpé dans un moulin électrique qui fonctionne grâce à une génératrice. Une fois terminé, on met la pâte dans des sacs, puis on les presse à l'aide d'une presse mécanique pour extraire toute l'eau. Après le séchage, maintenant, on passe la farine dans une grille pour enlever tous les déchets afin d'avoir une farine bien fine.
Transmise de génération en génération, la production de la cassave en Haïti reste très artisanale et rudimentaire. Sur du charbon de bois, une grande platine de forme circulaire soutenue par une dizaine de pierres fait office de plaque de cuisson. Après avoir étalé dessus une quantité suffisante de farine de manioc, Kenold y ajoute les principaux ingrédients.
La cassave peut être faite soit avec le manioc sucré, soit avec le manioc amer. Mais le principal, c'est d'utiliser les bons ingrédients en fonction de la demande. À la base, on met du coco, de la cannelle, du sucre et du gingembre. Mais parfois, on nous demande de rajouter des arachides, de la graine de sésame ou du hareng salé. Il y en a aussi qui rajoutent de la banane, du beurre, du fromage, des raisins. C'est-à-dire que la cassave peut être personnalisée.
Ça va dépendre de qui j'ai besoin.
La cassave haïtienne est donc multiple. Ainsi, la consommation de cette galette ancestrale est aussi variée que sa préparation. Stanley Jérôme Charles est gestionnaire des ressources humaines et professeur d'université au Gonaïve.
Vous savez qu'il y a une variété de cassave, et notamment de la cassave salée, sucrée, que moi, personnellement, j'aime consommer les deux. Particulièrement la cassave salée, on fait ça avec du baba et on peut consommer ça le matin avec du café et avec de l'eau sucrée aussi, donc c'est bon. L'autre cassave, la cassave douce, on peut consommer ça avec du baba aussi, du lait, tout ça. Donc je pense que c'est une richesse de notre gastronomie.
Une richesse que Sabrina Rosemont, une jeune chef de cuisine originaire de la ville des Gonaïves, qui vit actuellement en France, essaie de mettre en valeur dans ses événements culinaires. Pour attirer les étrangers à goûter notre cassave, elle n'hésite pas à y ajouter sa petite touche personnelle.
Dans mes événements, je le prends soit comme apéritif, soit comme entrée, on le met en salé, c'est plus salé, on fait la base, c'est la cassave. Et ensuite, au-dessus, soit on fait une sorte de guacamole, on met dessus un peu de crevettes, et là, c'est une sorte de décoration comme entrée. Tout comme, on peut aussi le donner en dessert, tu vois, avec un peu de confiture, ça se passe crème, ok? Donc, en ce moment, on essaye de rénover les choses, on essaye de revisiter à notre façon la cassave, ok? C'est ce qui est bien et c'est ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus, d'extérioriser beaucoup plus notre culture.
Malheureusement, l'inscription de la cassave sur la liste de patrimoine immatériel de l'humanité tombe à un moment où Haïti connaît une situation d'insécurité intenable. Donc, impossible pour les touristes de se rendre au pays pour découvrir de plus près cette galette de manioc ancestrale. Rappelons que c'est la deuxième fois qu'un produit consommé en Haïti est inscrit sur cette liste mondiale. En 2021, c'était la soupe Joumon ou soupe de l'indépendance, consommée généralement chaque 1er janvier.
Et on vous fera découvrir la soupe Joumon demain.
RFI, as vozes do mundo.
Des concerts, des feux d'artifice, une foule de 2,5 millions de personnes attendues pour la soirée du Nouvel An au Brésil sur la mythique plage de Copacabana. À Rio, ça s'annonce très festif, Sarah Cozzolino.
Avec de la musique dans les kiosques et des caipirinhas dans les mains des passants, l'ambiance est déjà à la fête sur le mythique trottoir le long de la plage de Copacabana. Venus de Salvador, Stéphanie et Ana Clara seront en blanc des pieds à la tête, comme le veut la tradition.
Et il faut que ce soit de nouveaux habits parce que quand on commence l'année, tout doit être neuf pour laisser derrière tout ce qui est mauvais. Et le blanc, c'est pour que l'année soit remplie de paix. Et puis à minuit, eh bien, on va sauter sur les 7 vagues.
Sauter par-dessus 7 vagues en faisant des vœux pour la nouvelle année, manger 7 raisins et tous les ans, on découvre de nouveaux rituels insolites.
Cette année, je vais coller un billet de 2 reais sous ma tongue pour attirer l'argent et à minuit, je vais prendre le billet et le dépenser avec la première chose que je trouve.
Des traditions qui attirent les touristes du monde entier. Cette Québécoise qui vit à Rio a tenu à ce que ses parents découvrent le nouvel an à la sauce carioca. Elle a déjà acheté les roses blanches qu'ils jetteront à la mer.
Il y a un esprit de fête, il y a un esprit de fraternité. Tout le monde s'embrasse, tout le monde rit. On parle à tous les gens qui sont autour de nous, même si on ne connaissait pas d'avance. Évidemment, il y a plein de gens qui sont dans l'eau, dans la mer. C'est magnifique, c'est à voir une fois dans sa vie.
2,5 millions de personnes sont attendues pour célébrer la nouvelle année depuis la plage de Copacabana en admirant les feux d'artifice tirés depuis la mer. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Et pour ce réveillon du nouvel an, eh bien en Martinique, le leader du RPRAC ne va pas faire la fête. Hein. Benoît Ferrand, il va passer le réveillon en prison.
Pour avoir tenté d'entrer dans la résidence privée du préfet, avoir appelé à l'attaque sur les réseaux dits sociaux, Rodrigue Petitot, dit le R, restera donc en détention provisoire jusqu'au jour de son procès, le 21 janvier prochain. Reportage Mike Irasque.
Les arguments de maître Max Belmar, l'un des avocats de Rodrigue Petitot, n'ont donc pas été retenus par le tribunal. Attaqué, ce mot qui a valu condamnation au leader du RPRAC suite à son fameux direct sur les réseaux sociaux, était au cœur de l'audience d'hier. Pour maître Belmar, il faut donner à ce mot un sens exclusivement politique.
Il y a un problème profond dans la traduction qui a été faite. Hein. Il dit qu'il fallait porter le conflit et dans les urnes, sauf s'il faut le réduire au silence. Les faits ne sont pas graves au point qu'il faille la maintenir en détention.
Maître Georges-Emmanuel Germani, l'un des autres avocats du prévenu, est revenu sur les motifs du jugement.
On a retrouvé dans ce jugement le même argument qui figurait dans le jugement précédent, l'argument de mettre fin à l'infraction ou d'éviter son renouvellement. Mais quelle infraction? Celle d'avoir été chez le préfet ou celle d'avoir exprimé sur les réseaux une idée politique dans le cadre de la liberté d'expression? Nous, les trois avocats, nous saisissons la Cour européenne des droits de l'homme parce que Globa Séfarine, parce que nous estimons qu'un homme innocent est actuellement en prison pour avoir exprimé des idées politiques. Et la liberté d'expression fait que parole pas vaut la geôle.
Un dossier qui pourrait donc connaître de nouveaux épisodes, voire des rebondissements, d'ici le procès du 21 janvier prochain.
Tout autre chose, une tradition de fin d'année dans les Outre-mer, tradition pour les uns, fléau pour les autres, les pétards et autres explosifs festifs. Reportage en Guyane, Jean-Marc Dabreux.
Pourtant interdit par arrêté préfectoral, mortier, pétards et feux d'artifice détonnent régulièrement sur l'ensemble du territoire guyanais pendant les fêtes de fin d'année.
C'est un moyen de s'amuser, tout ça, avec les gars du quartier, on s'amuse, tout ça, c'est le divertissement, quoi.
Si la vente de pétards sous le manteau est un business florissant, leur utilisation tourne parfois au cauchemar pour les riverains.
Moi, je pense que c'est aussi dangereux, parce que les gens qui ont des problèmes de cœur, des problèmes de santé,
qu'on ne s'y attendait pas, et puis ça fait boum, et voilà, hein, tout ce qui s'ensuit. Hein, mais c'est très dérangeant, même pour les animaux. Hein.
Une certitude, l'usage de pétards peut être dangereux et provoquer de graves blessures.
Bon après-midi et bonne fin d'année, Charlotte. À demain et donc à l'année prochaine.
Eh bien, merci à vous, Benoît Ferrand. Et où que vous soyez, meilleurs vœux de la part de toutes les équipes de RFI pour ce nouvel an. Et en vous souhaitant de belles surprises en 2025. Dans un petit instant, de vive voix, Pascal Paradou. Merci à Annel Lenoë, Maëlle Guyot qui sont en régie, rédaction en chef Jacques Alix et Mouna Elbana. Restez avec nous.
Ce mardi sur RFI.
Comment faire de l'astronomie à Madagascar ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Rencontre avec les astronomes tout-terrain de l'association Aïkintana qui partagent leurs télescopes avec petits et grands dans les villages de Brousse et jusqu'au bord du canal du Mozambique. Une fête astronomique à partager ensemble au festival Mahajanga sous les étoiles.
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.